Nous sommes en Daniel, chapitre 7. Ce soir, nous commençons la partie plutôt prophétique de ce livre tellement merveilleux. Dès que nous parlons de la prophétie, il y a plusieurs choses qu'on puisse dire. Et c'est que Dieu, il a inspiré les prophètes et il a fait de façon à ce que les hommes puissent lire ce qu'ont dit les prophètes et comprendre mieux les choses concernant lui et son plan pour la vie. Il y a des choses qui sont plutôt cachées ou mystérieuses que d'autres. Mais une chose surtout à garder, c'est que en 2 Pierre 1, verset 20, nous avons des instructions ou des conseils très importants. Et c'est avant tout, donc, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet de l'interprétation particulière. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a été jamais présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le but d'étudier la prophétie, c'est donc de savoir quelle est justement cette interprétation. Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a dit ces choses. Alors, on peut arriver et on peut commencer à lire les écritures, surtout prophétiques, et on peut les interpréter de plusieurs manières, mais est-ce que c'est toujours ce que Dieu a voulu? Et quelques clés qu'on peut utiliser, c'est de se demander qui a écrit le passage, en quelle langue, en quelle époque, en quel pays, et on peut aussi se demander quel est le message général de ce qui est présenté. Est-ce que c'est une affirmation du genre oracle du Seigneur, une telle chose va se passer? Est-ce que c'est un songe où il y a beaucoup d'images? Ou est-ce que c'est plutôt comme une chanson? Chaque forme de littérature a ses règles pour interprétation. Et donc ça, c'est pourquoi il est important donc de prendre compte de, d'abord, le type de littérature, et bien l'époque dans laquelle c'était écrit, la personne qui l'a écrit, et l'histoire autour. Et autant qu'on le peut, il faut le prendre à la lettre, à moins qu'il n'ait pas dit dans le texte que c'est un songe ou une image. Et ça ne vous choque pas parce que on fait la même chose avec n'importe quelle autre forme de littérature partout dans le monde. Or, souvent, lorsqu'il s'agit de la Bible, on a certains dogmes et certaines idées et parfois, on commence à plaquer nos idées sur ce qu'on va lire. Alors, essayons donc de lire ces passages et en même temps, se posant ces questions dont je viens de vous dire. Alors, donc pour ceux qui n'étaient pas là donc la semaine dernière, juste pour répondre, la personne qui écrit, c'est Daniel. C'est l'année 550 à peu près avant Jésus-Christ, écrit en Babylone. Alors Daniel est il est captif. Mais Daniel est aussi un autre dignitaire, parce que l'Éternel a tellement béni qu'il a placé très haut dans le royaume. Alors, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Ok, alors déjà, on a beaucoup de clés. Donc, d'après ce que je viens de dire, donc c'est qui est l'auteur? Donc, Daniel. C'est quand?
Ouais.
Ouais. Mais c'est sous le règne de quel roi? Belshazzar, oui. Donc, pour vous qui étiez là la semaine dernière et avant, donc, il est quel roi dans l'histoire des choses? Oui. Voilà. Donc, c'est le dernier roi avant Darius. Et donc, notre passage est écrit une douzaine d'années avant ce jour-là. Non, donc avant la succession des royaumes. Alors, quel genre donc de littérature avons-nous devant les yeux? Comment? C'est l'histoire, oui, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a écrit là? un songe, exactement. Donc c'est un rêve, mais il écrit historiquement donc tout ce qu'il a écrit. Donc ce qu'il a reçu dans son songe, il écrit. Mais il faut dire que c'est un songe, c'est un rêve. Alors Daniel prit la parole et il dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que quatre vents du ciel firent l'irruption sur la grande mer, et quatre énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. Alors, cette mer dont on parle ici, c'est la mer Méditerranée. Et comment on le sait? C'est tout simplement parce que pour eux, à cette époque, vu le monde qu'ils connaissaient, c'était la plus grande mer qui existait dans leur monde. Ils n'ont pas encore découvert les grands océans. Alors, donc la grande mer dont on parle ici, ça ne peut être que la Méditerranée, vu cette époque de l'histoire, tout simplement. Alors, quatre énormes bêtes sortent. Alors, par bêtes, donc, on peut parler des animaux sauvages, mais il n'y a rien qui ressemble à un animal terrestre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais tandis que ses ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, avec ceci, il faut comparer, pour vous qui étiez là, Daniel chapitre 2. Parce que en Daniel chapitre 2, pour vous qui n'étiez pas là, Nebuchadnezzar a fait un songe aussi, il a eu un rêve. Et dans son songe, il a vu un statue. Et dans ce statue, il a vu que le statue était divisé en quatre parties. Quatre parties qui représentaient les quatre grands royaumes qui vont succéder chacun après l'autre. Donc la tête en or était le royaume de Babylone. Ensuite, il y avait la poitrine en argent qui représentait donc les Perses et les Mèdes. Puis il y avait les cuisses en bronze qui étaient représentées par les Grecs. Et ensuite, les pieds de fer qui représentaient les Romains. Alors ici, dans la première bête, c'est un lion, qui est donc le plus noble des animaux terrestres, avec des ailes d'aigle. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons ce même genre de bête qui représente Babylone dans l'archéologie. Mais pas seulement ça, dans la Bible, dans les prophéties de Jérémie, en Ésaïe et en Ézéchiel, on parle de Babylone soit comme un lion, soit comme un aigle. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ses ailes sont arrachées et puis on lui donne donc un cœur d'homme. Et ça nous renvoie à cette histoire qu'on a lue il y a quelques semaines où Nebuchadnezzar a eu une rencontre forte avec Dieu. Lorsqu'il a perdu son bon sens et il était chassé du milieu des hommes, il était insensé pendant un temps certain par Dieu, et puis jusqu'au moment où il a reconnu que l'Éternel est le Dieu vivant. Et donc, nous voyons en comparaison avec cette bête que tout colle très très bien avec Babylone et Nebuchadnezzar. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors, si nous suivons donc la même logique, est-ce que ça correspond aux Mèdes et aux Perses? Alors, il est intéressant que dans leur territoire, il y a beaucoup de montagnes. Un ours est quand même le roi de son forêt, mais il n'est pas le roi des bêtes. Et lorsque un ours, lorsque ça attaque, ça écrase, ça détruit, un petit peu comme les Perses et les Mèdes ont tout écrasé dans leurs attaques. Après cela, je regardais, voici une autre comme léopard. avait sur le dos quatre ailes d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Alors, continuons, est-ce que ça correspond avec le statut? Ben, comparons donc cette bête avec ce que nous connaissons des Grecs alors. Nous savons que lorsque Alexandre dirigeait les Grecs, donc lui, il était assez rapide et assez efficace dans tout ce qu'il a entrepris. En fait, il a conquis beaucoup plus de territoire qu'on pensait possible en très peu de temps. En fait, il n'y avait personne qui pouvait lui opposer, sauf lui-même. Et il est mort tragiquement, on pense à cause de son alcoolisme, à un âge assez jeune. Alors, un léopard est, je pense que c'est la plus rapide des animaux terrestres. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des quatre têtes alors? Est-ce que ça correspond avec les Grecs? Une chose intéressante, après la mort d'Alexandre, son royaume fut divisé en quatre. Un territoire pour chaque général, et ça durait comme ça jusqu'à l'époque des Romains. Alors, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Alors, là, est-ce que ça correspond avec donc les Romains? Bon, c'est vrai que en ce qui concerne les Romains, il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Surtout quand on regarde les conquêtes de Jules César, l'homme était imbattable. Il fallait qu'il y avait deux assassins qui viennent en secret. Il n'y avait personne comme lui. Il fut pris en otage par des pirates, par exemple, parce qu'il voulait être plus éduqué comme Cicéro. Donc il va à Macédoine, donc il se fait prisonnier donc, par les pirates. Alors il n'est pas effrayé par ces pirates. En fait, il est insensé parce que les pirates n'ont pas demandé, selon Jules César, suffisamment d'argent. Il les force à demander encore plus. Il vit parmi les pirates comme s'il était parmi eux. C'est lui qui commande, en fait. Et il leur promet que le jour de sa libération, il va construire une armée navale et il va les crucifier tous. Eux, ils ne croient pas parce qu'il est comme eux. Or, lorsqu'ils obtiennent le rançon, Jules César, il tient sa promesse à la lettre et il crucifie ces pirates. C'est le genre de personne dont on a affaire ici. C'est effrayant, c'est terrible, c'est fort. Il n'y a personne qui peut le résister. Mais par contre, il y a quand même cette histoire de ces 10 cornes. Elle était effrayante de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Et je considérais les cornes. Et voici qu'une petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à 7 corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors cette corne reste un petit peu mystérieux pour le moment parce qu'on n'a pas d'interprétation, et lorsqu'il s'agit des empereurs romains, bah, ils étaient tous des hommes qui blasphémaient Dieu. On n'a pas une interprétation jusque là. Alors, ça colle en partie et il y a une autre partie qui est un peu ambiguë. Alors, continuons. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Alors, l'ancien des jours, on comprend que c'est Dieu. Alors, en ce qui concerne son vêtement, ses cheveux et son trône et la majesté et la puissance qui l'entoure, si on est forcé à dire, mais, donc c'est quelle personne dans la Trinité, on se penche plutôt vers le Père, parce que ça continue. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui, mille milliers le servaient. Et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, avec tout ce qui est dans les cieux, toutes ces myriades de personnes devant lui, les livres sont ouverts, c'est donc le jour du jugement. Alors, la Bible parle de ce jour du jugement. Et c'est un thème assez important, c'est que l'homme est responsable devant son créateur. En fait, à la fin de la Bible, en Apocalypse chapitre 20, nous lisons à partir de verset 11 ceci. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face, s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts, et s'y trouvaient la mort et le séjour des morts, et donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le jour du jugement. Donc il s'agit de ce moment où les livres sont ouverts et il paraît que les morts et les vivants se tiennent devant le trône. C'est ce jour où chacun sera jugé selon quoi? Selon leurs œuvres. C'est-à-dire, c'est enfin ce qu'ont voulu toujours certaines personnes. Ils voulaient donc que Dieu voit les bonnes choses qu'ils ont fait pendant la vie et ils pensent que Dieu va regarder toutes ces bonnes choses qu'ils ont fait. Et il va tenir compte de toutes ces bonnes choses qu'ils ont faites et va les laisser entrer en paradis, entre guillemets, s'il existe réellement. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que nous lisons ici. Là, ils sont tous jugés pour leurs œuvres, mais notez bien qu'il n'y a personne qui accède au paradis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Le problème, c'est que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Notre Dieu est saint. Et nous voyons très bien dans ce passage, il est saint. Et lorsque ces livres sont ouverts, c'est l'histoire de tout ce que ces gens ont pensé, dit, fait, n'ont pas fait pendant toute leur vie. Et pourquoi ? Parce que ils se sont appuyés sur leurs propres œuvres et non pas l'œuvre complète et parfaite de Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus a fait est parfait en sainteté. En fait, il n'a jamais trébuché, il n'a jamais péché dans aucune manière. Et ça, c'est pourquoi il est le seul capable de devenir donc le sacrifice payé, si vous voulez, le prix de notre jugement. Et ça, c'est pourquoi toute personne qui met sa foi en lui et non pas en ses propres œuvres n'a pas à passer par ce jugement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, nous voyons que les royaumes de ce monde sont mis à plat finalement par le royaume de Dieu. Et, chose étrange, ça correspond parfaitement avec le songe de Nebuchadnezzar, chapitre 2. Alors, verset 11, en Daniel 7, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Alors, si vous avez toujours Apocalypse 20 entre les mains ou sous les yeux, regardez avec moi une petite chose. Donc, c'est plutôt le début de ce chapitre. Verset 1, « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts. » Et donc, on revient là où on était avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons qu'il y a un certain parti, donc des royaumes et des gens qui sont permis de vivre sur la terre et qui seront là pendant ces 1000 ans où Christ règne sur terre. Alors, est-ce qu'il est possible donc qu'il s'agit, pour revenir à Daniel, de ces autres bêtes, donc ces autres peuples représentés par ces autres bêtes? Est-ce qu'il est possible aussi que eux, ils puissent vivre donc dans cette période aussi? À mes yeux, c'est l'explication qui me semble le plus juste. Et on va parler plus de cette corne et de tout ce que ça représente. Mais en fait, on va le garder plutôt pour dimanche. Mais je vais juste terminer avec ces derniers versets-là. Donc, versets 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel, arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite. » Alors, on parle de l'ancien des jours et on parle aussi d'un fils de l'homme qui reçoit la domination. C'est étonnant parce qu'on vient de dire que l'ancien des jours est Dieu. Et puis, il y a ce fils de l'homme qui reçoit la domination, la gloire, le royaume pour toujours. Ça fait penser à notre prophétie en Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ça fait penser aussi à ce que Jésus a dit en Matthieu 24, verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Qui est donc le Fils de l'homme? C'est Jésus. Et un dernier passage, c'est Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, va revenir. Et lorsqu'il revient, ce n'est pas le Jésus tout doux que nous voyons dans les évangiles, mais nous voyons un vainqueur puissant qui va régner. Une autre chose assez intéressante, c'est que ce Jésus, ce Fils de l'homme et l'Ancien des Jours, ils apparaissent tous les deux dans un même passage dans l'Ancien Testament. Peut-être un verset à partager avec nos amis juifs qui ne comprennent pas encore pourquoi nous croyons donc dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et aussi peut-être avec nos amis musulmans qui n'arrivent pas à comprendre. De toute façon, ce qui me frappe contextuellement dans ce songe est qui a la plus grande place. C'est Jésus, c'est Dieu. Oui, effectivement, c'est un songe qui parle des fins des temps. Mais qui est à la fin des temps? Et ça nous apprend que Dieu, il connaît tout déjà, il connaît cette histoire et que tout allait finir bien si nous sommes en Christ. Et voilà la clé. Si nous sommes en Christ. Parce que si nous sommes en Christ, nous voyons que nous partageons donc dans cette domination, honneur, royaume, mais bien plus, nous l'aurons. Il sera à nous comme nous sommes à lui. Et il est tout ce dont nous avons besoin. Le désir des nations, comme il est dit en Ésaïe, il est la seule amour qui peut donc assoiffer notre cœur, notre cœur, parce que le cœur est déjà assoiffé. Et ils sont assoiffés pour lui. Prions.